sur la seule zone qu'on a vraiment... C'était la zone vraiment de dégâts de tempête. Il y a 5 hectares ici. En fait, on a acheté la forêt en 2007. C'était complètement inextricable. Ça montait à 4 mètres. Là. Il y avait des ronces partout. On ne pouvait pas y pénétrer ni rien. Il restait peu de temps pour les subventions de plantation post-tempête. Donc nous, on s'est dit, on le fait, on le fait pas. Puis allez, ça ne nous coûtera rien. On va essayer, quoi, tant pis. Et même si on n'était pas trop pour pro-plantation, on s'est dit, ce sera la plantation de notre carrière de forestier. Bon, il n'y en aura qu'une. Voilà, et donc on a fait en sorte de garder tous les bois qui étaient encore debout. Alors c'est pour ça qu'il y a des arbres. Même s'ils ne sont pas beaux, au moins on s'est dit, il en reste un petit peu. Donc, ça a été un peu dur de convaincre les professionnels de les laisser. Et, ils n'étaient pas tellement d'accord. Donc on a fait tout l'entretien avec le petit tracteur que vous verrez à la fin. En fait, Laurent va arriver, vous inquiétez pas. Mais il est en train d'aligner ses tracteurs pour que vous les voyez bien. Il est très fier de vous les montrer. Ouais.
Devenir propriétaire forestier. Première partie. La 15e émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Depuis sa création en 2008, le réseau pour les alternatives forestières a organisé 11 rencontres réunissant professionnels forestiers et acteurs de la filière bois, propriétaires forestiers et amoureux de la forêt. La plus récente a eu lieu les 4 et 5 avril 2014 à Ligours, dans la Haute-Vienne, à l'invitation d'Emmanuel Orhan et Laurent Chaillet, qui ont décidé, il y a quelques années, d'acquérir des espaces forestiers dans la région. Ils ont fini par en acheter 170 hectares. Le thème de la rencontre était « Devenir propriétaire forestier responsable ». Du rêve aux réalités. C'était l'occasion d'échanges passionnants avec plusieurs personnes qui sont devenues récemment propriétaires forestiers, soit parce qu'elles ont bénéficié d'un héritage, soit parce qu'elles ont choisi, comme Emmanuel et Laurent, d'acheter des forêts. Une multitude d'interrogations sur ce que cela implique en termes de choix et de responsabilités techniques, sociale et économique. Comment répondre aux attentes des propriétaires dans le respect de cet écosystème vivant? Radio Zinzine vous propose deux émissions suite à cette rencontre. Dans cette première, nous suivrons les explications et les échanges lors de visites sur le terrain dans différentes forêts achetées par Emmanuel et Laurent. La deuxième émission sera consacré à 4 entretiens avec d'autres participants à la rencontre devenus récemment propriétaires forestiers. Pour commencer, Lolo, paysan forestier de la ferme de Trénas en Ardèche, explique la démarche du réseau pour les alternatives forestières et de cette rencontre en particulier.
Moi, je fais partie du réseau depuis un an après le début, je crois. Dans les rencontres de terrain comme on fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun ouvre aussi son territoire, que ce soit un propriétaire, un gestionnaire ou quoi que ce soit, qui montre un peu qu'est-ce qu'il fait. On avait le sentiment que c'était important que les gens, quand ils viennent visiter la vie des gens, la vie d'Emmanuel et Laurent, par exemple, qui sont ici, qui habitent ici, de montrer que c'était possible, quelle que soit la forêt, d'avoir une activité avec cette forêt, et que ce soit une activité qui, à la rigueur... soit même viable économiquement, quel que soit le lieu. Et pour une bonne partie des gens, on a remarqué que c'était nécessaire qu'il y ait concrètement une relation avec le lieu. Ça veut dire qu'il y ait une activité qui s'y passe et que ce ne soit pas seulement un moment de discussion ou de balade. Donc on a insisté pour qu'il y ait à chaque fois une petite intervention forestière ou autre, hein, qui pourrait être aussi botanique ou n'importe quoi. Donc sur ici, on a fait le choix avec Emmanuel et Laurent de faire une petite démonstration d'exploitation et de sillage avec une scie mobile qui correspondait à un besoin qu'ils avaient. Donc on a prélevé quelques arbres. Il y a une scie qui est en train de les scier pour faire un petit bâtiment qui va servir à stocker du matériel et peut-être un peu de bois. Voilà. Donc ça, on le verra sur l'autre parcelle où on va demain. Donc c'est pas pour montrer que, et prouver qu'on peut faire quelque chose en forêt, c'est simplement parfois une petite étincelle qui, paf, donne envie aux gens de se démener un peu plus et puis se dire, bah tiens, on peut arriver à faire quelque chose avec nos bois, on peut arriver. On n'est pas obligé de toujours tout déléguer ou de toujours penser qu'il n'y a que des pseudo-spécialistes qui vont pouvoir résoudre nos problèmes, nos questionnements, nos folies ou je sais pas quoi, voilà. Donc ces rencontres, c'est des moments qui doivent être des moments d'échange et pas des moments de polémique entre une bonne et une mauvaise solution. Surtout des moments d'échange, des moments de respiration, et on espère que ça va un peu propager le virus, voilà. Le virus de la... Ouais, aussi d'interrogation, évidemment. Le virus d'avoir envie de maîtriser un peu ce qu'on fait, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça fera des petits. J'espère que vous aurez tous un peu envie de, quelque part, vous lancer dans ces aventures-là. En tout cas, aujourd'hui, on commence à avoir un petit réseau de gens qui sont prêts à filer des coups de main pour les interventions, filer des coups de main pour les conseils, les discussions, les engueulades et compagnie. Donc on commence à avoir un bon potentiel de complicité dans ce monde-là, quoi. Voilà. Donc maintenant, je propose que ce soit Emmanuel et Laurent qui embarquent la troupe et qui montrent un peu leur petit domaine.
Bien, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans nos forêts pour les 10e rencontres du RAF. L'idée est un petit peu de savoir comment on est passé de non-propriétaire forestier il y a 10 ans à aujourd'hui propriétaire forestier de 170 hectares, alors que initialement, habitant en Corrèze, on va dire l'ambition, c'était d'acheter quelques hectares sur la commune et pas autre chose. Et ne réussissant pas à acheter ces quelques hectares sur la commune, ça m'a questionné. On est dans un secteur en Corrèze où l'emprise résineuse est marquée. Et la démarche initiale était de se dire, on n'a pas envie de seulement constater qu'il y a un enrésinement massif avec des plantations, etc. On a envie de prendre parti sur le terrain pour les feuillus. Ne trouvant pas les quelques hectares qu'on souhaitait avoir, l'idée, ça a été d'élargir le rayon de recherche et puis d'essayer de se faire connaître en tant qu'acquéreur potentiel de parcelles forestières. Et connaissant un expert forestier à proximité de Limoges, je lui ai demandé s'il avait des forêts dans le secteur de Limoges périurbain. Les forêts ont fini par être achetées. Sachant que ces grandes forêts à notre échelle, hein, qui font presque 40 hectares, celle sur laquelle on est aujourd'hui et celle de demain, elles ont été achetées avec un recours à l'emprunt bancaire. C'était pas du tout le projet de départ. Au départ, c'était utiliser quelques économies pour acheter un certain nombre de parcelles et puis s'arrêter quand les parcelles seraient achetées. Donc ça a été vraiment un enchaînement qui a dépassé sur tous les plans l'idée de départ. Donc voilà, Emmanuel est arrivé un petit peu en cours de route au niveau de la forêt. Au départ, c'était pas du tout son domaine, mais c'est peut-être à elle de l'expliquer.
Je sais pas si c'était le tien au départ non plus. En fait, il m'a donné le virus. Moi, je suis arrivée. Donc, je travaillais en ville, moi, à Limoges. Et puis, tous les matins, je le voyais partir sur son petit tracteur rouge. Puis, moi, je prenais ma voiture pour aller en ville. Et au bout d'un moment, assez vite, ça m'a lassé, quoi. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux y être dans la forêt. Donc voilà, on est tous les deux en disponibilité pour notamment s'occuper de la forêt, quoi.
Alors déjà, initialement, c'est pas du tout ce type de forêt qu'on envisageait d'acheter, puisque la démarche était feuillue. Maintenant, entre ce qu'on recherche et ce qu'on trouve, il y a des fois des écarts, et à partir de là, autant des forêts complètement résineuses, on n'a pas franchi le pas, autant des forêts avec quand même une certaine mixité, la preuve est qu'on a quand même fait l'acquisition, en considérant que c'est également un pari sur l'avenir. À l'époque, aucune formation forestière, aucune connaissance des essences, aucune connaissance en sylviculture. Donc l'idée, avec l'emprunt bancaire, c'était de se dire, on se lance dans l'acquisition dans la mesure où c'est possible, et on verra de quelle manière, à échéance 10 ou 15 ans, on peut retomber à la fois économiquement et puis bien sûr sur tous les autres plans. On verra bien le résultat, quoi. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui était présent dès le départ, c'était l'envie d'être dans la forêt. C'est une envie qui arrivait assez incidemment, à savoir qu'il n'y avait plus de bois de feu, et puis il y avait des toutes petites parcelles familiales sur lesquelles je me suis rendu avec la tronçonneuse de mon grand-père, sans savoir du tout ni affûter, ni très bien abattre. Enfin bon. Et c'était un travail difficile, laborieux et inefficace. En attendant, je me suis senti bien à faire ce travail. Et c'est, ça a sans doute été un moteur constant pour la suite de l'implication forestière. Alors, à chaque fois qu'il y a eu une acquisition de forêt, l'idée, c'était bien sûr d'être présent dans la forêt, sur le terrain, et d'essayer de développer un matériel à taille humaine, puisque on voit beaucoup de matériel énorme dans les forêts. On peut constater les dégâts occasionnés par ce matériel, et l'idée était de trouver quelque chose de quoi on se sente plus proche pour quand même intervenir dans nos forêts.
Mais je peux demander si... Déjà au début, vous êtes tourné vers des professionnels du coin pour des conseils, pour des interventions?
Non.
Le CRPF quand même.
Ben, en définitive, la première rencontre, ça a été la rencontre d'un technicien du CRPF qui, en constatant la démarche, nous a tout de suite dit il faut faire le Faugéfort. Alors j'ai fait le cycle du Faugéfort, organisé par le CRPF, qui a été, une première occasion de rencontrer d'autres propriétaires forestiers et d'avoir une approche sur reconnaissance des essences, des nécessités d'avoir une desserte, etc. Enfin, beaucoup de questions de base, on en garde, puisqu'Emmanuel l'a fait 2 ans plus tard, on en garde plutôt un bon souvenir, si ce n'est que c'est quand même une formation très orientée sur la plantation.
Oui, ça permet de connaître les orientations en fait locales de la filière, quoi, parce qu'ils orientent très fort vers les plantations de Douglas quand même, on peut le dire. Quoi. À chaque exercice, tiens, il y a un exercice reboisement aujourd'hui. Ah bah tiens, on pourrait mettre ça et ça. Non, la réponse c'était de Douglas. Bon, d'accord, on a dû se tromper quelque part. Bon, quand même, j'exagère un peu, mais il y a une forte tendance à ça.
Ça veut dire qu'il faut un esprit un peu autonome ou pour résister un peu à tout ça.
Ouais, puis c'est bien d'y aller pour leur poser des questions un peu gênantes aussi, ça l'est.
Voilà, donc chemin faisant, ben, c'est un parcours personnel. On est devenu de plus en plus critique par rapport à cette organisation artificielle de la forêt. Et ce qui nous intéresse de mettre en œuvre, et, en étant en forêt, ben, c'est beaucoup plus travailler dans ce que vous avez derrière vous. Ça me stimule, ça me motive, j'ai envie. Et travailler là, je n'ai pas du tout envie. Parce que c'est difficile d'être en forêt si le plaisir n'est pas là.
En Ardèche, très accidenté, un peu en montagne. On travaille beaucoup de massifs de Douglas, de plantations de Douglas, qui sont en général assez inaccessibles. La seule réponse aujourd'hui de tous les techniciens qu'on connaît, c'est la coupe définitive. On va dire l'éclaircie définitive. Hein. Voilà. Et parce qu'ils refusent de mettre les moyens pour qu'il y ait plusieurs interventions, ça coûte trop cher. Donc c'est un prélèvement définitif, au pire tous les 30 ans, sinon voire tous les 50 ans. Et derrière, en général, au mieux, c'est pas reboisé. Au pire, c'est reboisé mécaniquement avec une détérioration qui s'ensuit au niveau lessivement des sols et compagnie. J'ai jamais vu un technicien d'une quelconque coopérative en Ardèche, en tout cas, qui cherche à transformer une plantation de Douglas en forêt, quoi. Donc peut-être que dans le Limousin, il y en a. Pour l'instant, j'ai vu nulle part des interventions sérieuses sur les plantations de Douglas. Tout est dans une démarche vis-à-vis de l'industrie, quoi.
Les forêts de résineux, on les stigmatise souvent comme forêt de production et que ça acidifie les sols, que c'est pas de la forêt. Mais faut peut-être prendre en considération que ça, c'est une forêt qui va produire du bois d'une certaine valeur. Et que je pense, c'est que cette forêt peut servir aussi de trésorerie aux propriétaires pour pouvoir réhabiliter des peuplements feuillus qui vont demander beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Pas prendre ça pour moi j'ai vu des très belles forêts de Douglas en régénération naturelle. Pour moi ça c'est une forêt, mais qui a un réservoir économique qui va peut-être permettre aux propriétaires de faire des choix aussi sur les feuillus qui va mettre plus de temps à pousser ou réhabiliter. Comme à côté on a des châtaigniers qui ont une faible valeur ajoutée à la vente, donc aussi faut que l'économie rentre en jeu pour moi.
Alors ce matin, le programme, en fait, on va se promener dans la forêt ici. On vous expliquera différents petits trucs qu'on a fait, bien ou pas bien. On a fait des bêtises aussi. On a essayé de faire au mieux et puis bon, on ne fait pas toujours comme on veut. Et à la fin, donc, ce qui est prévu, c'est de vous montrer le chantier de siège mobile et puis la façon dont on a débardé les bois avec le petit tracteur. Voilà, donc Laurent est en route.
Il est là.
Voilà, je vais le laisser.
Donc hier, on était dans la dernière forêt acquise début 2007. Là, c'est l'avant-dernière acquisition fin 2006. La caractéristique de la forêt, c'est qu'elle n'était pas gérée. Tous les précédents plans de gestion, le dernier ayant expiré fin 1987, n'avaient pas été suivis. Donc ça veut dire qu'il y avait au moins 30 ans sans gestion de forêt. Donc, à l'issue de l'acquisition, ce qui a paru comme une priorité, c'est le plan simple de gestion. Et étant donné qu'il y avait des zones dévastées par la tempête, un dossier nettoyage, reconstitution, en considérant que dans les autres acquisitions de forêt, il y avait déjà eu des reboisements post-tempête subventionnés, etc. Donc c'était fait. Et là, même si de sensibilité, on n'était pas spécialement pour se lancer dans des travaux comme ça, au titre de l'expérience, on a eu envie de le faire. Et puis, c'était subventionné, donc on s'est dit, il n'y a pas grand risque à faire ça, quoi, une fois dans notre vie. Donc ça y est, c'est fait. En même temps... voilà. En même temps, autant que ça ait d'autres fonctions que uniquement le reboisement. Alors, la fonction principale qu'on a essayé de mettre en place en même temps que ces travaux, c'est la desserte de la forêt. On est sur une forêt de 43 hectares. Là, on est sur un chemin public qui la traverse de part en part, mais il n'existait pas tellement d'autres chemins sur la partie privée. Et les zones sinistrées par la tempête étant une d'un côté de la forêt et l'autre de l'autre, on s'est mis d'accord avec l'entrepreneur pour que, plutôt que de revenir avec un porte-char déplacé de 500 mètres des engins pour passer d'une zone à l'autre, qu'il fasse un passage à travers la forêt qui servirait de chemin central pour la suite. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a eu presque un kilomètre de chemin réalisé comme ça, dont on se sert aujourd'hui pour gérer en irrégulier le reste de la forêt. Donc c'est un petit peu le paradoxe. Le nettoyage, l'opération de nettoyage reconstitution a permis, en fin de compte, cette liaison et la gestion du reste autrement. Ce qui nous intéressait dans ce type d'opération, effectivement, 100 pieds par hectare, du Douglas, etc., 3 mètres par... c'était moyennement... on se sentait pas tellement proche de quelque chose d'aussi symétrique. Donc on a tenté tout ce qu'on a pu en termes de variété. On était limité dans le cadre du subventionnement à 2 essences par zone. Donc là, on est sur une zone reboisée. Donc là, on est sur une zone de 5 hectares. Il y a une partie mélèze au milieu de laquelle on mélèze du Japon, au milieu de laquelle on est, sur à peu près 2 hectares. Et derrière, plus loin là-bas, il y a des Douglas. Et sur la seconde zone, qui fait à peu près 3 hectares, il y a 1 hectare et demi planté en chêne rouge et 1 hectare et demi planté en Douglas. Voilà. Ensuite, on s'est dit qu'on allait essayer d'éviter l'opération systématique qui consiste à supprimer une ligne sur 5 lorsque on doit passer dans la forêt. Voilà, en disant c'est bête de se priver de 20% des plans systématiquement de cette façon-là. Donc quand il y avait des andins, ce qui est le cas sur cette parcelle, on s'est arrangé pour faire 3 lignes à 2,50 m, ensuite un passage de 4 m, ensuite 3 lignes à 2,50 m, et ensuite un andin. Bon, bref, voilà. Donc ça, on a mis ça en place. Ce qui a permis de le faire, parce que le pépiniériste a dit « D'accord, je mets les plans espacés à 2,50 m, mais après je ne vous fais pas les entretiens, parce que mon engin ne passe pas. » Voilà, alors nous on a dit « On a du petit matériel. » Et le pari, c'était de faire l'entretien nous-mêmes avec notre petit matériel. C'est ce qui a été fait. On a fait aussi d'autres expériences de coupe. On considère aujourd'hui que c'est raté. On s'est dit qu'en partant de zéro, on n'avait pas du tout ni la science infuse ni l'expérience. Donc à partir de là, on allait mener notre expérimentation. Ce qui sécurise ces expérimentations, c'est le fait de les pratiquer sur des petites surfaces. Donc 40 hectares, bon ben voilà, on fait une plantation sur 5 hectares d'un côté, 3 hectares de l'autre, bon c'est la limite acceptable, limite supérieure. Ensuite, on fait une éclaircie ratée, bon ben voilà, on l'a fait sur 3 hectares, on a un exemple d'éclaircie ratée sur 3 hectares. Ensuite, on fait des cloisonnements. Aujourd'hui, on veut montrer que, enfin on veut faire partager que quand on se lance avec une connaissance zéro, juste avec l'envie de faire, ben y a un cheminement quoi. Et on n'arrive pas du jour au lendemain à faire des opérations subtiles, réussies, qui permettent que le système végétal se cohabite et se complète. Enfin bon. Donc ça, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Et on, ben voilà, il y a toutes les...
Et on prend des conseils, mais on n'a pas toujours les interlocuteurs qu'on aurait choisis en toute connaissance de cause. Enfin, au début, on prend les gens qui sont autour, voilà, qui donnent des conseils plus ou moins valables. Voilà.
Pour la technique de reboisement. Ici, le choix de dessoucher et de mécaniser les entretiens, c'était une idée à vous ou comment ça s'est fait? Parce qu'il y a d'autres façons de faire un reboisement et de l'entretenir.
Oui. Alors l'acquisition a été réalisée par l'intermédiaire d'un expert forestier. À l'époque, c'était justement la formation Faugéfort était concomitante à cette acquisition et c'était en 2006-2007, donc à cette début de gestion de la forêt. On n'avait pas du tout de perception de ce qu'on pouvait faire. On n'imaginait pas, quoi, en fait. Alors, la logique classique, c'était, vous avez une forêt de un peu plus de 40 hectares, il n'y a pas de plan de gestion, il faut un plan de gestion, ça, c'est la... on va dire, voilà. D'accord. Alors, ça a permis de se rendre compte, au passage, que le plan de gestion, qui nous semblait être une contrainte administrative désagréable et qu'on avait envie de bâcler préalablement à ça, ben, le fait de le faire avec un professionnel et en... on va dire en étroite collaboration quand même, en étant sur le terrain ensemble, ça donnait un document qui était un état des lieux de la forêt, un descriptif, et à partir de là, c'était une réflexion ouverte sur la suite. Voilà. Alors dans le cadre de ces premières démarches, ce qui semblait urgent à l'expert forestier, vu qu'il y avait des zones sinistrées par la tempête, c'était de profiter, entre guillemets, des subventions pour ça. Alors, petite parenthèse, on va vers la forêt parce qu'on a envie de nature, de liberté, de beauté, de voilà. Après, on se retrouve avec une réalité tellement administrative que c'est à la limite. Le premier choc, c'était de tomber sur des propriétaires pessimistes, âgés, etc. On l'a évoqué hier. Le deuxième choc, non moins violent, ça a été de tomber sur une paperasserie invraisemblable. Et heureusement que l'expert a suivi, s'est chargé de la partie administrative, parce que sinon, j'en sais rien, on aurait fini par faire un feu de joie avec le début des dossiers de... Voilà, voilà. Alors par rapport à cette expérience de plantation, réellement, on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Déjà pour voir le travail que ça faisait, pour voir l'énergie mise en jeu, les gros engins, la dépense de carburant, enfin, le coût pour la société, puisque sur 22 000 euros ou quelque chose comme ça de coût de travaux, il y a 20 000 euros de subvention. Donc... voilà, alors c'est vraiment une expérience, quoi, voilà. Et on considère que ça réussit, je sais pas, peut-être à 70%, en tout cas au moins les deux tiers, entre les deux tiers et les trois quarts. Il y a beaucoup de plantations qui sont pas aussi réussies. Donc, en ayant réussi, on n'est pas hyper positif sur la manière de faire. Alors quand en plus, on peut observer, faire un constat d'échec, c'est invraisemblable. C'est vraiment subventionner l'échec. Peut-être passer 10 minutes autour du matériel léger qu'on utilise pour faire quelque chose dans les forêts qui disposent d'un bois de faible valeur, mais quand même pouvoir intervenir dans des conditions économiques acceptables.
Vas-y, il est où ton matériel léger?
Alors le matériel léger, il commence là.
Le matériel
Voilà.
En... 7 tonnes, ça, non ?
Oui, voilà. Donc, en fait, on se limite à grand maximum 7-8 tonnes, que ça soit le transport sur route ou en forêt. Ben, le plus gros de notre matériel, c'est ça. Donc, le tractopède, c'est un vieil outil, mais assez fiable, assez économique à l'achat, à l'entretien, qui permet de faire des petits morceaux de dessert. Et en fait, c'est assez polyvalent. Donc, on a développé le petit matériel où on l'a adapté pour faire des interventions qui, économiquement, ne seraient pas, ne trouveraient pas leur équilibre avec des professionnels. Alors, au départ, l'idée d'acheter des forêts, quand on a des économies, il suffit de rechercher les parcelles, de mettre en correspondance une parcelle à vendre avec l'argent en réserve, et c'est très simple. Donc ça, ça a été première partie. Deuxième partie, quand on commence à trouver des forêts de taille plus importante, assez enthousiasmante au fond, hein, puisque sans enthousiasme, pas de forêt, non. Et où on n'a plus d'économies, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on refuse de faire l'acquisition en se disant c'est embêtant de... Voilà, il n'y a plus de... Donc, ça a été le recours à l'emprunt bancaire, en considérant que l'emprunt bancaire, c'est aussi... Sans l'emprunt bancaire, cette forêt, on ne s'en occuperait pas aujourd'hui. Donc, ça a été quand même très significatif dans l'acquisition de forêt, mais ça doit être un partenariat, hein, ça ne doit pas être... disons qu'il faut que les termes bancaires soient acceptés des deux côtés. C'est ce qui s'est réalisé, à savoir que cette forêt qui globalement coûtait 200 000 euros en 1987 a été financée à hauteur de 180 000 euros par emprunt bancaire in fine. Ça veut dire que chaque mois on paye les intérêts et l'assurance du prêt et le capital sera remboursé en 2021 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc de 2007 à 2021, ça laisse une petite quinzaine d'années pour faire quelque chose en forêt en se disant si on réussit sur le plan économique ce qu'on a engagé. Au fond, ça a laissé 15 années pour quand même s'occuper de la forêt et puis réfléchir comment on va rembourser le prêt. Donc du coup, actuellement, il y a 550 euros par mois qui sont à verser au titre des intérêts et assurances pour cette forêt, sachant qu'il y a l'ensemble des loyers qui procurent 400 euros net, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que la partie bois doit représenter 150 euros par mois pour être à ce statut d'équilibre. Ça veut dire qu'on rembourse tout d'un coup. Voilà.
Comment ?
Eh bien, justement, ça laisse 15 ans pour y réfléchir.
En revendant tout.
Donc plusieurs possibilités, sachant qu'il y a des biens immobiliers en parallèle qui sont hors forêt. Donc l'idée, une solution, ça peut être de revendre un bien immobilier qui permette de couvrir ce remboursement. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de revendre la forêt, pourquoi pas, si jamais les choses se passent mal, si on trouve que c'est trop difficile.
Ou une partie.
Donc toutes les solutions sont possibles. Et pour l'instant, ce n'est pas un problème du moment. À savoir que l'acquisition de forêt, le problème, c'est de trouver des forêts. Ensuite, c'est devenu trouver des finances. Donc tout ça, ça a été résolu, les forêts, les finances. Maintenant, c'est être dans la forêt le problème, c'est pas comment elle va se rembourser. Donc c'est un problème futur qu'on abordera dans le futur, le moment venu.
Ta démarche, c'est complètement une démarche passionnelle, instinctive. Tu t'es donné les moyens en prenant des risques, parce qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à rembourser ça, tu vas devoir peut-être tout brader ce que tu as créé, enfin améliorer et compagnie. Donc c'est un risque qui est intéressant. C'est... Donc aujourd'hui, si on veut être propriétaire, il y a... C'est possible en prenant des risques, même voilà, C'est ça que j'ai apprécié dans ta démarche. Ensuite, aujourd'hui, tu avances, vous avancez dans vos massifs forestiers sans la réflexion uniquement économique, puisqu'aujourd'hui, vos forêts ne sont pas rentables, entre autres par manque de complicité, tout ce qu'on a parlé, des fois on s'est rencontrés déjà ici, où c'est maintenant, effectivement, tu parlais maintenant faire en forêt, ça veut dire on va essayer, bah, peut-être collectivement, peut-être tout seul, je ne sais pas, en tout cas de créer, de recréer des complicités, des gens qui savent aussi intervenir, des gens qui savent conseiller, pour que cette forêt devienne aussi encore plus un lieu de vie, puis surtout qu'il y ait une économie qui en ressorte potentiellement. Voilà. Aujourd'hui, cette forêt n'est pas économique, mais elle n'est pas économique aussi parce que c'est leur choix. Et c'est ça qui est vachement intéressant. J'ai vachement apprécié la démarche d'Emmanuel et Laurent, parce que justement, ils ne sont pas tombés dans le panneau de se dire il faut à tout prix que la forêt rembourse ce qu'elle m'a coûté. Et ça, c'est une très bonne réflexion, parce que ça évite pas mal d'erreurs. Quoi. Voilà.
En même temps, c'est pas énorme, 150 euros par mois, ça fait 1800 euros par an. Même quelqu'un qui n'est pas issu du métier, avec une bonne tronçonneuse, qui sait un peu faire du bois de chauffage, même si dans une région ici, effectivement, le bois de chauffage n'est pas très cher, tu peux arriver à créer au moins un mi-temps.
C'est que les intérêts, ça. La question, c'est le capital. Il aurait pu négocier le prêt au départ en disant on rembourse le capital en plus des intérêts sur 20 ans, et donc ça leur aurait mis une mensualité de 1500 euros ou quelque chose comme ça. Et là, on passait à la vitesse supérieure, tu vois. C'est un choix qu'ils n'ont pas fait.
Pendant 15 ans, il peut éclaircir déjà cette forêt, il peut faire du boulot en 15 ans, quoi. Et que, si tu veux, le capital foncier et tout ça de sa forêt aura pris une valeur quand même en 15 ans non négligeable, quoi. Donc là, normalement, il ne prend aucun risque non plus, quoi.
On a pu visiter les parcelles de Laurent et Emmanuel. On a proposé de rajouter une petite expérience de siège mobile qui permet de mettre en valeur des bois qui seraient certainement partis à assez bas prix au bord de route. C'est des bois de pas grande qualité. C'est des mélèzes qui étaient malades, qui séchaient, qu'on a décidé d'enlever avec Laurent, qu'on a décidé de scier pour faire une petite construction qui permettra d'abriter un peu de matériel, un peu de bois. Voilà. Un petit truc de 10 mètres par 5, je crois. Ouais, c'est un bâtiment, c'est ça. 10 mètres par 50 mètres carrés, quoi. Donc pour ça, il y a à peu près une quinzaine de cubes de bois qui vont être sciés. Des bois qui étaient juste à côté, donc en train de dépérir, vraiment. Ils ont fait 200 mètres, là, on les a posés là. Et donc Laurent les a amenés avec son tracassou, avec son petit porteur. Donc ça reste un truc complètement gérable par des gens pas spécialement mécanisés, ni rien. Ensuite, pour la scie, là, c'est ceux qui interviennent, c'est des jeunes qui sont sur Tarnac. Francis, qui est caché, pas où il est. Voilà. Francis, il vient de Tarnac, donc c'est une heure de bagnole. Voilà, c'est sur le plateau de 1000 vaches, là. Et ils ont cette machine qui leur permet de faire des constructions chez eux. Et ça, je trouve ça intéressant de trouver un intervenant qui était assez local et puis des gens engagés, quoi, dans leur manière de vivre. Pour intervenir sur ce chantier-là, sur cette forêt, où il me semble qu'il y a peut-être un potentiel en tout cas, il y a une recherche de faire autrement les choses. Et peut-être que la scie mobile et la manière de travailler des gens de Tarnac peut participer à cette manière de réfléchir et d'avancer, quoi. Voilà. Donc, sur un thème économique, le fait de scier du bois, on valorise facilement 5 fois plus que si on le vendait en grume, ou pire, si on le vendait en bois sur pied. Donc si on veut gagner un peu d'argent sur une forêt qui est en rénovation, on peut faire une plus-value beaucoup plus importante en pratiquant un peu de sciage mobile. Pourquoi le sciage mobile ? Parce qu'il y a, par exemple, le transport du bois qui n'est pas pris en compte, quoi. Les bois ne sont quasiment pas déplacés de la forêt, surtout dans des régions comme ici qui sont assez plates, et ça permet une économie pas négligeable, et puis surtout ça permet de faire soi-même l'intervention, être présent dans l'action de transformation des bois, et puis même avoir les choix de décider de mettre des bois en menuiserie, des bois on charpente. Et, enfin, voilà, c'est... Moi, j'incite beaucoup les propriétaires qui ont envie de dynamiser leur forêt à aller vers le sillage mobile. Parce que c'est une démarche qui nous engage réellement dans, dans notre manière de gérer les forêts ou de discuter de forêt, quoi. Là, des arbres morts sur pied, ça aurait peut-être fini même en palette. En plus, ils sont jeunes, ce n'est pas des bois fantastiques. Là, ça finit un petit bâtiment. S'il était vendu en charpente, ça serait, je pense, autour de 250 € le mètre cube. Il y a une réelle petite économie possible avec le sillage mobile. Quoi. Voilà.
Ouais, dans le Morvan, j'ai un adhérent là, d'Adré Morvan. Lui, il a une forêt, alors, je ne sais pas, il doit faire une trentaine d'hectares. Il ne fait que comme ça, lui. Il sort son bois lui-même. Il coupe, il sort son bois, il stocke tout ça. Puis une fois tous les 3-4 mois, il fait venir un scieur. Il appelle ses clients, bon, ses copains plutôt. Et puis, il scie à la demande, en fait. Bon, alors lui, il n'en vit pas. Hein. Il fait... c'est un complément, quoi, mais...
Je pense qu'on peut réellement apporter une économie qui est importante, et même vivre de sa forêt. Même, j'en ai parlé avec Laurent, même avec les petits châtaigniers qu'il a. Trouver un réseau de menuisiers ou de charpentiers un peu alternatifs qui veut faire, par exemple, de la volige rabotée. Nous, on le fait chez nous. On a commencé avec des petits châtaigniers comme ça aussi. On fait avec une toupie, on a fait des bouffetages. Et on fait une volige qui est super classe, quoi. C'est super beau. Les gens sont à la recherche de ces produits. Mais il faut recréer ce réseau, il faut recréer l'envie des gens. Et je pense que par la construction un peu alternative, la recherche, voilà, il y a un débouché qui est réel. Toi, sur une forêt comme ici, si tu fais, admettons, 200-300 mètres cubes de bois de sillage par an... Ton budget, il explose au niveau... T'as un réel profit de ta forêt, tu peux développer quelque chose, tu peux commencer à...
Le bois qu'on achète, il est moins cher que... Il est moins cher que le prix du... Que si t'allais voir un marchand de bois ou un scieur habituel. Le propriétaire gagne plus d'argent et l'acheteur, il paye moins cher, donc...
Moi, je ne suis pas pour vendre le bois moins cher, par contre, parce qu'il faut quand même faire gaffe. Mais en tout cas, s'aligner au minimum au prix du marché, sinon voir augmenter si la prestation elle est de qualité, que tu t'engages aussi, par exemple, à utiliser que des produits propres, à faire un minimum de mécanisation et compagnie. Si tu as un engagement forestier, tu peux revendiquer un prix qui est différent. Mais tout ça, c'est une éducation du public, c'est doucement... Après, sur le détail de la scie, il faut demander à Francis...
Il y a plein de modèles différents, ça c'est plutôt un petit modèle dans les grossis, on va dire. Alors ça, on l'a acheté d'occasion, coûtait 30 000 €. Elle était presque neuve en fait. Enfin, elle avait 500 heures de roulement.
Et vous bossez dans un grand périmètre ?
Ça dépend. Ça nous est arrivé déjà d'aller loin, mais bon, parce que c'était des gens qu'on connaissait, en Bretagne, dans les Pyrénées, tout ça. Mais sinon, après, à l'échelle locale, on bosse sur la région, quoi. Sur la région. Après, on peut sortir aussi. Ça dépend des cubages. Elle pèse 2,5 tonnes. Donc, elle peut se tracter avec un poids lourd ou un 4x4.
Les machines les plus petites. Et du coup, on est quand même limité. On n'a que 6 mètres 10, 6 mètres 5 de longueur. Bon, on peut mettre une rallonge. Et sur du petit sillage comme on fait là, bon, c'est tout juste, quoi. On avait des pannes à 6 mètres 5. Voilà, il fallait pas plus grand. Donc on a adapté aussi la construction en rapport à la machine, quoi, voilà. Voilà, donc c'est, mais c'est aussi l'intérêt, c'est que voilà, tu peux te faufiler un peu partout, c'est... Bon. T'as pas besoin d'un monstre devant pour le tirer, avec un petit bus, ça marche, voilà, quoi. C'est aussi le côté avantageux.
Et le prix du on va dire, tu le connais, celui d'Étienne Lescure, hein, la machine, on va dire, plus gros calibre.
Mais, une grosse Serra Bavaria qui scie 13 mètres, ça vaut 180 000 euros. Neuf, avec pas mal d'options de retournement qui sont très efficaces. Hein, bon, voilà, quoi. Mais c'est un prix quand même assez exorbitant. Après, c'est sûr que c'est une machine qui scie super bien. Quoi, voilà.
Parce qu'il y a du bois, potentiellement même en résineux, tu as du bois de menuiserie, il n'y a pas que du bois de structure. Et donc tu vas devoir chercher des niches pour tous ces débouchés. Après, tu as du bois entre guillemets d'industrie, c'est-à-dire les petits résineux. Mais dans une gestion ProSilva, tu n'es pas obligé de produire des petits résineux qui vont à la pâte à papier et à la trituration. Mais tu seras obligé, en fait, dans ta démarche, si tu veux vraiment vendre à des artisans locaux, d'aller chercher une multitude de petits débouchés, tu vois, la chaufferie locale, etc. C'est super intéressant, mais c'est beaucoup de travail.
Vous la connaissez bien, vous connaissez les parcelles, les arbres qui poussent, mais peut-être qu'il vous manque de vous rendre compte du volume par qualité disponible. Et je pense que c'est du temps ou de l'argent si on le fait faire, mais un inventaire fixe de placettes vous aiderait avec... pas forcément un truc super compliqué, mais avoir une idée des essences, de la répartition des diamètres, de la qualité des tiges, et de vous rendre compte dans l'année, enfin dans la fin, année après année, de ce qui pousse pour de vrai, de ce que vous allez pouvoir sortir comme volume de bois en respectant des principes pro-silva, de silviculture proche de la nature, mais savoir si vous allez voir un menuisier, lui dire moi tous les ans je peux t'apporter X mètres cubes et commencer à discuter de comment on les rémunère.
À l'origine, il n'a jamais été question que l'activité forestière soit mauvaise physiquement. En commençant cette activité à presque 40 ans, il n'était pas question de se retrouver à 45 ou 50 ans, plié en deux, avec... voilà. Donc, depuis le début, dans l'utilisation du matériel, je suis attentif à l'ergonomie du travail, à la différence des postures, au fait que ça soit agréable, pas trop poussiéreux, pas trop... Enfin, voilà. Alors, l'objectif, on va dire maxi, c'est 400 stères, sachant qu'on livre le bois par 8 stères, 2 cordes, avec un attelage, petit camion de maçon 3,5 tonnes et remorque 3,5 tonnes qui permettent de mettre une corde dans chaque, donc 4 stères plus 4 stères. L'idée, c'est de ne pas dépasser une livraison par semaine, en moyenne répartie sur l'année, ça veut dire 50 livraisons par an, 50 x 8, 400, voilà. L'approche de la forêt, c'est aussi que ça soit pas une corvée. Donc aller jusqu'à 50 livraisons, on est dans une limite acceptable. Au-delà, ça deviendrait une espèce d'usine transposée dans la nature, mais ça resterait très... voilà. Le but, c'est de pouvoir intervenir en forêt par nous-mêmes et en même temps de faire de la sylviculture. Si on n'avait pas ce débouché bois de feu, par exemple dans les résineux, c'est beaucoup plus délicat. Donc en fait, c'est pas un but ultime de faire du bois de feu, c'est plutôt un moyen d'être dans la forêt, de faire évoluer tranquillement la forêt, tout en trouvant un équilibre économique et un travail qui n'est pas si désagréable que ça. On voit la forêt évoluer, on sait, les clients en général sont contents quand on leur livre le bois, etc. etc. C'est tout un enchaînement. Il y a un intérêt technique à adapter des machines, à les utiliser avec un faible coût énergétique. Enfin, voilà. Disons qu'on va avoir un souci. C'est que le client de bois de feu, il regarde le prix du bois, il regarde pas si son bois vient d'une coupe rase ou s'il vient d'une éclaircie, il regarde pas si c'est un porteur qui a sorti etc. Donc il faut se positionner là-dessus.
Et je trouve qu'il y a un énorme travail, on a vraiment la responsabilité au niveau du bois bûche qui intègre énormément de choses. C'est une des denrées qui est le moins valorisée. C'est-à-dire chez des personnes qui ont complètement les moyens financiers de s'acheter du bois au vrai prix, qui n'existe toujours pas, et qui n'arrivent pas à le faire, même si tu leur expliques. Donc ta position, enfin voilà, je trouve que c'est un peu dommage, vu la force que vous avez, et qu'il faut absolument qu'on arrive à faire un prix au kilowattheure du bois de chauffage, et y compris pour des problèmes comme qui tournent autour du bois énergie, des énormes installations de gardanes et tout, le bois de chauffage, le bois bûche, a une place énorme dans la ruralité vis-à-vis de l'homme et même par rapport à la ville. Et voilà, disons que je suis extrêmement touché par ce que tu dis et globalement parce que il y a un gros enjeu autour de ça et qu'il faut rééduquer les gens, de leur dire, est-ce que vous réfléchissez peut-être à la pompe, mais vous payez sans discuter le kilowattheure à ERDF et tout. Et le bois de chauffage, il y a une ingratitude vis-à-vis de ce produit qui est assez généralisée.
Moi, je trouve intéressant la petite polémique sur le prix du bois ou la démarche des gens vis-à-vis du bois de chauffage. Et encore une fois, je trouve qu'Emmanuel et Laurent ont une démarche qui est rigolote parce que... Ils ne sont pas dit faut qu'on valorise ce bois par rapport à un argent, machin. Ils sont plutôt dans une démarche d'arriver à être acteur en forêt. Les choses se font à leur rythme. Demain, je pense qu'ils vont commencer à parler à leurs clients, à essayer d'influencer peut-être une hausse de prix pour arriver à une vraie valorisation compagnie. Les choses se font en avançant avec leur rythme, comme ça. Et je trouve avec une certaine finesse et une certaine... je sais pas trop le mot, quoi, mais en tout cas, une délicatesse qui peut être autant efficace qu'une revendication militante sur le long terme. Voilà. Parce que là, on arrive chez eux, on voit un peu leur territoire, et paf, la question tombe, comment c'est possible, les mecs, ils font des choses complètement ridicules, ils s'emmerdent à trimballer 15 fois leur bûche, et leur bûche, ils les donnent, quoi. Et c'est vachement intéressant, je trouve, parce que c'est vrai que ça nous remet en question sur toujours ce regard qu'on a par rapport au pognon. Et là, bon, bah, par leur choix de vie aujourd'hui, ils ont pu dépasser ce problème-là.
Les clients qui leur achètent le bois de chauffage, peut-être que d'eux-mêmes, spontanément, ils vont comprendre toute la beauté de ce travail-là et vont se dire mais en fait on paye pas assez cher, c'est pas juste quoi. D'eux-mêmes.
Avec la livraison des bûches, il y a une information aux clients. Mmh. En fait, on n'a pas des clients qui sont déjà dans une démarche consciente. Si on le vendait plus cher avec une plus-value écologique ou je ne sais quoi, on toucherait seulement des gens qui sont déjà dans cette démarche-là. Alors que là, on touche vraiment tout le monde. Qui... Et en fait, à chaque fois, on leur explique, vous voyez, votre bois, il vient d'une coupe raisonnée. C'est intéressant ce qu'il y a derrière. En fait, la forêt, c'est pas que des coupes rases. Et à chaque fois, ah bon, mais on peut faire autrement. Ça les épate parce qu'ils ne connaissent pas.
Ouais. C'est vrai que ça, c'est fondamental parce qu'en Limousin, pour la 95% des gens, le bois, ça se récolte par coupe rase, quoi. Par coupe rase, et que ce soit le bois de chauffage ou le bois d'industrie ou le bois d'œuf, quoi. Et donc, si vous arrivez à faire, avec vos clients, faire passer ce message-là, c'est déjà énorme, quoi. En Limousin, c'est énorme, quoi.
Voilà, il faut bien comprendre le contexte géographique.
Pour conclure cette émission, abordons un autre problème, les mauvaises conditions de travail et de rémunération de la plupart de bûcherons, situation liée au prix excessivement bas pratiqué pour les produits issus de la forêt, notamment le bois bûche pour le chauffage.
Bon, mais moi je suis Raymond Bénard, vous me connaissez depuis hier, je m'occupe de ce groupement, ça va faire 5 ans que j'assure la présidence. Alors ce que je voudrais dire, c'est que le problème des bûcherons, c'est quand même un problème grave, parce qu'on est en train de nous dire que les emplois dans l'avenir, la forêt devrait procurer des emplois. Alors quel type d'emploi, quoi? Parce que si c'est qu'avec des grosses machines, si effectivement les gens doivent travailler comme dans un bureau, assis au chaud, etc., excusez-moi, la forêt, pour moi, elle aura peut-être vite vécu, hein, ça mettrait peut-être pas 30 ans à ce qu'elle soit démolie. Alors j'espère qu'on n'arrivera pas là. Donc il faut restaurer ce métier de bûcheron. Alors moi j'aimerais bien que déjà que ça ait une connotation négative. Bûcheron, je l'ai dit à une réunion, ça a fortement choqué, mais moi ça me gêne pas. Bûcheron, ça résonne un peu avec le mot con, quoi. Et bûcheron, c'est pas... Évidemment, ça a fait tilt dans l'Assemblée, mais tout le monde reconnaît qu'effectivement il faudrait restaurer ce métier, le reconnaître, etc., et puis le faire évoluer. Mais dans les faits, ça ne se passe pas, quoi, ça ne bouge pas. Donc, à force de matraquer le petit peuple qui travaille, on en arrive à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on en arrive à des aberrations totales. On va finir de dégoûter les gens qui s'intéressent professionnellement un peu plus à la forêt. Et moi, pour moi, c'est grave.
Alors, oui, donc je suis entrepreneur de travaux forestiers, donc je suis bûcheron manuel. On se spécialise avec Jean-Yves Boudin dans les interventions sylvicoles en débardage à traction animale. Alors, donc, c'est pas tout à fait le même type de bûcheronnage qu'on demande au gros de la profession. C'est pour ça que je peux témoigner de ce qui est imposé à la profession et donc de la paupérisation qu'on impose à la profession. Heureusement, je réussis pour l'instant à être en marge de cet appauvrissement et de ces contraintes qu'on met sur la profession. Actuellement, la profession, c'est simple, il y a des chantiers où j'ai vendu du bois sur pied suite aux dégradations trop importantes qui étaient faites par les coupes des acheteurs. On a voulu prendre la coupe à leurs frais, au prix où ils payent leurs bûcherons. 7,30€ du stère ou du mètre cube confondu, quel que soit le peuplement. 7,30€ en Limousin, avec les terrains qu'on a, les variations dans les peuplements, etc. Si on veut faire la sylviculture, c'est pas possible. La loi, c'est pas le bûcheron qui l'a fait, c'est l'acheteur de bois. L'acheteur de bois, il dit j'achète à tel prix, je paye tel prix le bûcheron. Si vous faites pas le boulot, il y en aura d'autres pour le faire, qui viendront de l'étranger, etc. Donc malheureusement, moi je considère que le problème, il est surtout financier. Après, tout ce qui est social à côté, c'est pas un métier facile, il y a des caractères, ça reste gérable. Et plus facilement gérable que les contraintes financières qu'on nous met dessus, je pense.
La réalité, c'est que c'est possible dans certains chantiers, avec une qualité de travail pas forcément optimale, et avec des gens qui ne font pas 7 ou 8 heures par jour, mais qui en font 15, voilà. Et ça devient la référence. Du coup, c'est impossible de faire de la qualité avec cette référence-là. Et après, faire passer aux propriétaires, aux exploitants, que la qualité, ça vaut 2, 3, 4 fois ce prix-là, ça devient à peu près impossible, quoi. Sans compter qu'il y a aussi la machine qui crée une référence. C'est-à-dire puisqu'on intervient maintenant dans des peuplements comme ça à la batteuse, ça crée aussi une référence, on en parlait hier. Ça crée une référence qui dit le prix du marché, c'est ça. Et ce qui est incroyable en forêt, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mercurial visible des prix. Donc cette référence, elle est un peu tacite. Elle est dans tous les esprits, enfin dans plein d'esprits en tout cas, mais elle n'est pas affichée, elle n'est pas négociée. Vous voyez, il n'y a pas de syndicat qui négocie en haut lieu les conditions de travail. C'est pour ça qu'on parlait hier de certification forestière, je dis, il est temps, puisqu'il n'y a pas de syndicat en matière de forestière, il est temps qu'on impose des normes sur la rémunération de ceux qui travaillent en forêt et que ça fasse partie, des schémas de certification, de gestion durable, etc. Tout ce truc-là, il est complètement évacué du débat, mais complètement. Alors qu'en fait, il est là dans tous les esprits. Quand on parle entre techniciens, on sait très bien quels sont les prix. D'un chantier à l'autre, on est toujours d'accord, le prix du marché aujourd'hui, la référence, c'est ça. On le sait toujours, et on sait très bien que c'est un prix qui n'est possible que avec des bûcherons, comme il dit, où il y en a deux sur trois qui sont payés à 50 euros jour au black, voilà, et qui vivent dans des caravanes, que tout ça, c'est toléré, que la MSL, tout le monde le sait.
Il y a des articles qui circulent actuellement, mais c'est connu, hein, que maintenant il y a de plus en plus de Roumains, de Bulgares et autres, parce que c'est un des métiers qui est reconnu pour le travail détaché. Et donc ça remplace en fait les Turcs et les Marocains pas mal maintenant. Et surtout pour tout ce qui est bas de gamme, donc pour le bois énergie ou pour la papeterie et tout ça.
Parce qu'on est dans l'Europe et que les Bulgares et les Roumains sont dans l'Europe, on va retrouver une légalité, mais au ras des pâquerettes, avec des salaires effectivement absolument inouïs. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le prix est fait par les grands industriels. Donc c'est International Paper qui dirige le prix sur la papeterie. Alors c'est entre 23 et 25 euros la tonne arrivée sur le parvis de l'usine. Donc transport, débardage, abattage, le propriétaire, quelle rémunération, 2 euros grand maximum, et est venu se greffer, il y avait un espoir à un moment donné, avec le bois énergie. Ah ben, je peux vous dire que le bois énergie, c'est encore plus catastrophique, puisque ce sont bien entendus, ils sont bien partagés de marché, eux, ils payent 50 centimes, 4 fois moins, en gros, quoi. Voire c'est zéro des moments. Donc comment s'en sortir, quoi? Comment ne pas comprendre que des propriétaires âgés soient pas un peu dégoûtés, laissent tomber, quoi? Ça peut se comprendre. Voilà ce que j'allais dire.
L'analyse, elle n'est pas très compliquée à faire. C'est un tarif qui passe avec la machine. Et en fait, quand on dit « il n'y a plus de bûcherons aujourd'hui », mais c'est simplement le fait que les tarifs d'exploitation sont faits sur une forme d'exploitation, hein, de prélèvement à l'hectare et de mécanisation, où les 7,50 € en question, pour vivre correctement, avoir un salaire décent, avec la mécanisation c'est possible, avec un bûcheron qui paye ses charges, etc., c'est en général pas possible. Donc en fait on sait, moi je défends cette idée-là, et je pense que beaucoup, s'ils regardent l'analyse en face, ils seront d'accord avec moi, que c'est pas le fait qu'il n'y a plus de bûcheron qui introduit la batteuse en forêt. C'est le fait de calquer les prix d'exploitation sur la machine, qui est aussi subventionnée, qui élimine les bûcherons.
Et il faudrait presque créer là un vrai label, je sais pas, un vrai label de bois bûche, où les gens savent que quand ils achètent ces bûches-là, ben c'est des bûches où le bûcheron est bien payé, où le propriétaire se fait pas rouler, et où derrière, vous voulez dire, c'est toute la filière qui est justement rémunérée, quoi.
Pour aller dans l'autre sens, avec Laurent, chacun de notre côté, on avait réfléchi à une chose pour que nos concitoyens soient un peu plus conscients de ce que c'est que le bois, et notamment le bois bûche, donc qui sort pour le chauffage. Et donc, Laurent, tu peux en parler, c'était de faire venir les acheteurs de bois en forêt, comprendre ce que c'est que la forêt, comprendre ce que c'est que le travail pour sortir du bois, etc. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le fasse, parce qu'on a des forêts qui sont périurbaines, donc effectivement, c'est facile de provoquer ce genre de petites manifestations. Il faut qu'on y arrive, parce que c'est vrai que les gens... Moi, j'ai vu le truc, là, ça a été dit d'ailleurs par un bûcheron de la Creuse. Il dit, là, actuellement, les gens, ils veulent du bois bûche, un peu comme les pommes golden, calibrées, propres, etc. Vous savez, le bois qui est enfilé à Castorama, là, entre parenthèses, c'est du bois très bien présenté, mais c'est de la merde, mais c'est pas grave, ça se vend bien. Non, il faut arrêter, quoi. Il faut que nos concitoyens, il faut qu'ils sortent, comme vous dites, de leur écran télé, il faut qu'ils aillent voir un peu de plus près. Et puis moi, je dis, en forêt, pourquoi pas aujourd'hui, reprenez du travail physique, contrôlé, enfin, disons, il ne s'agit pas de casser les gens, mais qu'on retrouve un peu de physique, ça serait pas mal.
Oui, alors ce qui est amusant, c'est que cette idée, effectivement, on la partage avec Raymond. C'est normal que les clients soient au courant de ce qui se passe, des enjeux, etc. Et Gaëtan, tu avais vu le courrier. À la fois, on a présenté la situation qui permet d'expliquer de quelle façon on gère la forêt, sensibiliser les utilisateurs sur le fait que s'il a une bûche qui provient d'une coupe rase ou s'il a une bûche qui provient d'une forêt gérée différemment, c'est pas tout à fait pareil. En conséquence, on vous propose que vous nous indiquiez votre mail et une visite en forêt à un moment donné. Donc c'est quelque chose qui va se faire en suivant.
C'était Devenir propriétaire forestier, première partie. La 15e émission dans la série « Entre cimes et racines » réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières. Dans cette émission, à part Laurent Chaillet et Emmanuel Oran qui nous ont accueillis, vous avez entendu Marco Denis, débardeur à cheval, Gaëtan Dubus, ingénieur forestier et initiateur du réseau, Thibaut Darvin, paysan et propriétaire forestier en Dordogne, Régis Lindeperg de l'association Adré Morvan, Francis Sieur de Tarnac, Vincent Magnier de l'association Nature sur un plateau dans le Limousin, Emmeline Faure, propriétaire forestière, Raymond Belarbre, président d'un groupement d'employeurs de bûcherons, Julien Cassagne, bûcheron dans le Limousin, et Pascal Menon, bûcheron dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pour plus d'informations sur les activités du réseau pour les alternatives forestières, consultez le site www.alternativeforestières.com. au pluriel et attaché, .org, où vous trouverez à écouter ou télécharger toutes les émissions dans la série Entre cimes et racines.